Sur la droite, la grande table est dressée pour un festin de lièvre du désert rôti à la sauce cépéda. Les autres mets, à partir du bout de la table dans le sens des aiguilles d'une montre, consistent en strupes d'aplomage, chouka sous cloche transparente, café épicé de mélange, on notera la crête de faucon atréide sur le versoir, oie en pot et, dans son flacon de cristal balouti, vin pétillant de caladane. Remarquez également l'antique détecteur de poison dissimulé en partie derrière le lustre. Darès Balat, description d'une vitrine du musée. Teg découvrit Duncan dans la cantine attenante à la cuisine étincelante du non-globe. S'arrêtant à l'entrée de la petite pièce, il étudia attentivement le gola. 8 jours s'étaient écoulés depuis leur arrivée ici, et le garçon semblait finalement avoir surmonté l'étrange fureur qu'il avait saisie quand ils avaient pénétré pour la première fois dans le tube d'accès du non-globe. Ils avaient d'abord traversé en arrivant une sorte de caverne peu profonde où flottait l'odeur musquée d'un ours des montagnes. La roche au fond de l'antre n'était pas de la vraie roche, bien qu'elle eût été susceptible d'abuser le plus méfiant des observateurs. Une légère protubérance dans la paroi pivotait sur elle-même si l'on connaissait ou découvrait par hasard le code secret. Le fond entier de la caverne s'ouvrait alors dans un lent mouvement circulaire. Le tube d'accès, automatiquement illuminé dès que la paroi s'était remise en place derrière eux, avait ses murs et son plafond décorés de l'emblème griffon des Harkonnen. Teg avait aussitôt imaginé Patrine enfant débouchant en ces lieux pour la première fois. Le choc, l'émoi, l'émerveillement. Et il n'avait donc pas noté la réaction de Duncan jusqu'au moment où il avait perçu le sourd grondement qui emplissait l'espace clos autour d'eux. C'était Duncan qui grondait ou gémissait ainsi, les poings serrés, les yeux rivés sur un griffon Harkonnen qui ornait le mur sur sa droite. Dans son visage, la rage et la confusion se livraient bataille. Il leva les 2 poings et les abattit sur l'image qui le dominait, ensanglantant ses mains.
« Qu'il soit maudit jusqu'au tréfonds de l'enfer !» s'écria-t-il.
C'était une imprécation curieusement intense dans une bouche si jeune. À peine ces mots avait-il franchi ses lèvres que le gola sombrait dans une crise d'incoercibles sanglots. Lucille le prit par les épaules et lui caressa la nuque d'une manière apaisante, presque sensuelle, jusqu'à ce que les sanglots cessent.
« Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça ?» demanda le gola. « Tu le sauras quand ta mémoire originale sera rétablie, » lui répondit la révérende mère.
« Les Harkonnen, » murmura Duncan, le visage congestionné en levant les yeux vers elle.
« Pourquoi est-ce que je les hais tant ? On ne peut pas l'expliquer avec des mots. Attends de retrouver tes souvenirs. »«
Je ne veux pas de ces souvenirs !» s'était exclamé Duncan avant de tourner vers Teg un regard désemparé et d'ajouter
« Oui, je les veux quand même. »
Et à présent, tandis que Teg l'observait en silence dans l'entrée de la cantine et qu'il levait les yeux vers lui, ses pensées étaient visiblement tournées aussi vers ce moment-là, car il demanda
« Quand, Bachar ?»«
Bientôt. »
Teg jeta un regard autour de lui. Duncan était assis tout seul devant la table auto-nettoyante où était posé un bol de liquide brun. Il reconnut l'odeur de l'une des nombreuses préparations additionnées de mélange que contenaient les chambres anentropiques du non-globe. Ces réserves constituaient un véritable trésor de nourriture exotique, de vêtements, d'armes et autres objets de toutes sortes. C'était un musée d'une valeur incalculable. Une mince couche de poussière recouvrait tout quand ils étaient arrivés, mais aucune des provisions entreposées ici n'avait subi la moindre détérioration. Tout ce qu'il y avait à boire et à manger était systématiquement additionné de mélange. Pas des doses toxicomanigènes, à moins d'être un glouton, mais de manière toujours sensible. Même les fruits en conserve étaient saupoudrés d'épices. Le breuvage brun dans le bol de Duncan faisait partie du lot que Lucille avait goûté et décrété capable de sustenter la vie. Teg ignorait au juste comment les révérendes mères s'y prenaient, mais il savait que sa propre mère le faisait aussi. Il suffisait qu'elle goûte à n'importe quel aliment pour savoir ce qu'il y avait dedans. Un coup d'œil à l'horloge finement ouvragée et incorporée au mur opposé de la cantine apprit à Teg qu'il était plus tard qu'il ne l'aurait cru. la troisième heure de leur après-midi arbitraire étant déjà bien entamée. Duncan aurait dû se trouver encore là-haut dans la salle d'entraînement bien équipée, mais ils avaient tous les deux vu Lucille s'éloigner vers les régions supérieures du globe et Teg voulait saisir cette occasion de se retrouver tête à tête avec le Gola. Prenant une chaise, il s'assit en face de Duncan.
« Je déteste ces horloges, » dit ce dernier en relevant la tête.
« Tu détestes tout ce qui se trouve ici, » lui fit remarquer le Bachar.
L'horloge en question était encore une antiquité. Son cadran circulaire abritait une paire d'aiguilles analogiques et un second cadran numérique plus petit. Les aiguilles, pris à pâle, représentaient des personnages nus, un mâle pourvu d'un énorme phallus et une femelle, la petite, dont les jambes étaient écartées. Chaque fois que les deux aiguilles se rencontraient, le mâle semblait posséder la femelle.
« Obscène !» reconnut Teg avant de désigner le bol de Duncan. « Tu aimes ça ?»«
Ce n'est pas trop mauvais, Bachar. Lucille dit que ça fait du bien après l'entraînement. »
Ma mère me préparait un breuvage semblable chaque fois que je me livrais à des exercices intenses.
Teg se pencha en avant pour humer le liquide. Il se rappelait l'arrière-goût, un peu trop riche et écœurant, du mélange sur sa langue.
« Combien de temps allons-nous encore rester ici, Bachar ?» lui demanda Duncan.
« Jusqu'à ce que nous soyons retrouvés par les gens qu'il faut, ou bien jusqu'à ce que nous soyons sûrs de ne pas nous faire prendre. »
« Mais coupés de tout comme nous le sommes, comment serons-nous ?»«
Lorsque je jugerai le moment venu, je prendrai le cache-vie et j'irai faire le guet à l'extérieur. »«
Je déteste cet endroit. » »«
Je l'avais déjà constaté. Tu ne sais donc pas ce que c'est que la patience ?»
Duncan fit la grimace.
« Bachar, pourquoi faites-vous en sorte que je ne reste jamais seul avec Lucille ?» demanda-t-il à brûle-pourpoint.
Teg bloqua une expiration entamée, puis repartit sur une inspiration. Le garçon s'était aperçu de la chose, cela signifiait que Lucille devait savoir aussi.
« Je ne pense pas que Lucille soit au courant de ce que vous faites, » reprit Duncan. « Mais cela commence à devenir un peu trop visible. »
Il regarda furtivement vers la porte.
Si son attention n'était pas captivée à ce point par cet endroit, je me demande où elle va quand elle s'esquive comme ça.
Je pense qu'elle est là-haut, dans la bibliothèque.
La bibliothèque?
Un peu primitive, je te l'accorde, mais on y trouve des choses fascinantes.
Teg avait levé les yeux vers le plafond décoré de la cuisine voisine. Le moment de décider était venu. Il ne fallait pas compter que Lucille demeurerait beaucoup plus longtemps distraite. Teg lui-même, au demeurant, partageait sa fascination. Il n'était pas difficile de s'égarer parmi toutes ces merveilles. Le non-globe tout entier, avec ses 200 mètres de diamètre, était un fossile conservé intact. Teg estimait qu'il devait dater d'une époque bien antérieure à celle du tyran. Quand il en avait parlé à Lucille, celle-ci avait répliqué d'une voix sourde, presque rauque.
« Je suis sûr que le tyran connaissait l'existence de cet endroit. »
Immédiatement, le mentat en Teg s'était mis à exploiter cette suggestion. Pourquoi le tyran a-t-il permis à la famille Harkonnen de gaspiller dans une telle entreprise une si grande partie des dernières richesses qu'elle possédait encore? La réponse est sans doute là, pour mieux ruiner les Harkonnen. Les pots de vin et les frais de transport par vaisseau de la guilde des matériaux Ixiens avaient dû prendre des proportions astronomiques.
« Le tyran savait-il que nous aurions un jour besoin de cet endroit ?»
avait demandé Lucille. Impossible d'écarter ses facultés de prescience, dont l'étau 2 avait si souvent fait preuve, reconnaissait Teg. Tout en observant Duncan assis en face de lui, le Bachar sentit se hérisser les poils de sa nuque. Il y avait quelque chose de surnaturel dans ce repère des Harkonnen, comme si le tyran en personne y avait séjourné. Qu'était-il advenu des Harkonnen qu'il avait fait construire? Teg et Lucille n'avaient pu trouver aucune trace des circonstances dans lesquelles le non-globe avait été abandonné. Ni elle ni lui n'étaient capables de faire un pas dans ces lieux sans se sentir écrasés par le poids de l'histoire. Teg se heurtait sans cesse à des questions dont il n'avait pas la réponse. Lucille avait à peu près le même problème.
« Où sont-ils passés? Il n'y a rien dans ma mémoire seconde qui puisse me donner le moindre indice. »
« Le tyran les a peut-être attirés au dehors pour les tuer. »
« Je retourne à la bibliothèque. J'y découvrirai peut-être quelque chose. »
Les deux premiers jours, Teg et Lucille avaient exploré le non-globe de fond en comble. Taciturne et boudeur, Duncan les suivait à distance, comme s'il craignait de rester seul. Chaque nouvelle trouvaille était une cause d'effroi ou de stupéfaction.
21 squelettes conservés dans des enveloppes de place transparents et rangés le long du mur près du cœur des installations. Observateur macabre de tous ceux qui passaient par là pour se rendre dans la salle des machines ou dans les chambres anthropiques. Patrine avait prévenu Teg de leur présence. Lors de ses toutes premières visites au globe, il avait découvert des documents prouvant qu'il s'agissait des ouvriers qui avaient aménagé le globe. Les Harkonnen les avaient massacrés pour préserver le secret. Dans l'ensemble, ce non-globe était une réalisation remarquable. Une enclave dans le temps, entièrement coupée de l'extérieur. Au bout de tous ces millénaires, sa machinerie sans friction créait toujours la même projection mimétique de protection que les instruments de détection les plus modernes étaient incapables de distinguer du décor naturel de roches et de pierrailles.
« Il faut que cet endroit tombe intact aux mains du Bene Gesserit »,
ne cessait de répéter Lucille.
« C'est un musée rempli de véritables trésors. Ils tenaient même à jour tous les dossiers génétiques de leur famille. »
Ce n'était pas tout ce que le Harkonnen avait laissé ici. À chaque instant, Teg avait l'occasion de s'indigner à propos de détails plus ou moins subtils ou grossiers. Comme cette horloge. Tout dans leurs vêtements, leurs machines servant à maintenir les conditions de vie, les menus objets de plaisir ou d'enseignement, tout avait été marqué par la compulsion des Harkonnen à écraser toutes les personnes et tous les systèmes de valeurs auxquels ils avaient affaire sous le poids de leur arrogance et de leur supériorité proclamée. À nouveau, Teg songea à Patrine quand il était venu là pour la première fois, sans doute guère plus âgé que le Gola à présent.
Qu'est-ce qui avait bien pu le pousser à garder le secret sur cet endroit pendant tant d'années?
Même sa femme n'en avait rien su. Patrine n'avait jamais parlé de ses raisons à Teg, mais le Mentat avait extrapolé. Une enfance pas très heureuse, le besoin de posséder une retraite rien qu'à lui. Des copains qui n'étaient pas de vrais amis, mais qui attendaient la moindre occasion de se gausser de lui. Aucun d'eux ne devait connaître une telle merveille. Elle lui appartenait en entier. C'était plus qu'une retraite solitaire, c'était le gage privé de sa victoire sur les autres.
J'ai passé là-bas des heures très heureuses, Bachar. Tout fonctionne encore parfaitement.
Les archives sont anciennes, mais très instructives une fois qu'on a maîtrisé le dialecte. Il y a beaucoup à apprendre dans cet endroit, mais vous comprendrez quand vous y serez. Vous comprendrez beaucoup de choses dont je ne vous ai jamais parlé.
L'antique salle d'entraînement portait les marques d'un fréquent usage de la part de Patrine. Il avait modifié la codification des armes sur certains automates d'une manière que Teg identifiait aisément. Les compteurs témoignaient de longues heures passées à se torturer les muscles dans des exercices complexes. Ce globe expliquait pas mal de qualités remarquables que Teg s'était toujours étonné de découvrir chez Patrine. Nombre d'aptitudes naturelles avaient été aiguisées ici. Les automates du non-globe représentaient à eux seuls un problème. La plupart avaient été construits en violation des anciennes proscriptions qui frappaient ce genre de machines. Certains d'entre eux, qui plus est, avaient été visiblement conçus à l'origine pour remplir des fonctions de plaisir qui confirmaient les histoires les plus révoltantes que Teg avait entendues sur les Harkonnen.
La douleur comme source de plaisir.
À leur manière, ces choses expliquaient cette moralité austère et inflexible que Patrine semblait avoir puisé sur Gameux. L'indignation créait ses propres schémas de comportement.